Danny. Alors, ce matin, on a un prédicateur invité avec nous, notre pasteur Yannick. Comme à toutes les années, à la fête du travail, il y a une réunion de famille à Rivière-du-Loup et je pense qu'il en profite aussi pour aller apporter la parole de Dieu aussi dans l'église de Rivière-du-Loup. Mais ce matin, on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui commence à être connu un petit peu plus là avec le temps. On a invité encore une fois notre frère, M. Richard Houle, que j'inviterai à venir. Notre M. Houle a été pasteur ici à l'église pendant quelques années et puis maintenant a servi le Seigneur à Grand Bay pendant d'autres années. Et je pense que le Seigneur est en train de préparer des nouvelles choses. Je ne vais rien annoncer tout de suite, mais je pense que le Seigneur a mis un fardeau déjà sur le cœur de notre frère M. Houle pour passer à autre chose éventuellement. Et puis ce matin, on a le plaisir de l'accueillir avec le message de la parole et je vous demande de l'accueillir. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.
Alors, un privilège. Je veux être sûr que ça fonctionne. Un, deux. Bonjour tout le monde.
Ah! Ce serait le fun, la puissance de Dieu, ce serait aussi évident, tu sais, que... Quand Dieu nous allume, ça devrait être évident. La dernière fois que je suis venu, je vous ai partagé un message sur la prière. Le défi était adressé aux hommes, particulièrement. De devenir des hommes de prière, j'espère que ça vous a amené à faire certains pas. C'est un défi, la vie de prière, mais c'est un beau défi. C'est une joie d'apprendre à prier. Et ce matin, j'ai étudié le message, le fardeau qui conduit à l'intercession intense. Le fardeau qui conduit à l'intercession intense. Vous vous souvenez d'une histoire qu'on connaît tous, Moïse, qui est en haut dans la présence de Dieu. Et là, il sait, en descendant, il vient de s'apercevoir que le peuple s'est éloigné d'une manière incroyable après tous les miracles que Dieu avait fait. Et là, Moïse remonte sur la montagne. Il était là déjà 40 jours. Et pendant 40 jours, il intercède nuit et jour, sans manger ni boire. Et ça cumule avec une prière qu'on n'a pas vue depuis la création du monde, je pense. Il prie de la manière suivante. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Wow! Quelle prière! Seigneur, j'ai tellement à cœur que tu pardonnes le péché de ce peuple, que je serai prêt, que tu effaces mon nom du livre que tu as écrit. Probablement ici, le livre de vie. Quelle prière! Et on va faire un bond de 1000 ans, et on va aller dans Romains 9, s'il vous plaît, où il est mentionné un fardeau. L'apôtre Paul va répondre dans le chapitre 9 à 11 à la situation du peuple juif qui s'est endurci face à la proclamation de l'Évangile. Lorsque Jésus a eu son ministère, le peuple juif s'est endurci. Et Paul va partager là un fardeau qu'il a sur le cœur et qui, lorsque je l'ai étudié, m'a vraiment touché. Wow! Quelle intensité de Paul dans la prière, chapitre 9. Et ça nous ramène à Moïse que j'ai lu tantôt, que j'ai mentionné plus tôt. Romains 9, versets 1 à 5 particulièrement. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit, et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Paul ici va nous ouvrir son cœur sur un fardeau qu'il n'a partagé nulle part dans les autres épîtres. Il nous partage quelque chose de très intime ici. Et il va nous partager la réalité, premièrement, de son fardeau. Il dit un fardeau réel. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Incroyable. Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Quelle affirmation quasiment inconcevable. J'aimerais rappeler ici, il dit « je souhaiterais ». Hein? Le temps est parfait, indique l'idée du souhait. Même s'il sait qu'en réalité c'est impossible, il veut dire « j'ai ce souhait réel si cela était possible ». Je désirerais même ce que je mentionne au verset 3, si c'était possible. Il désirait être anathème. Wow! Anathème, si vous prenez un dictionnaire grec, c'est quelque chose de livré à la colère divine, qui est consacré à la destruction, qui est amené sous la malédiction. La pensée dominante est celle de quelqu'un livré à la colère judiciaire de Dieu et devenu anathème à cause de son péché. Évidemment, ici, c'est à la place des Israélites. Et je désirais même, si c'était possible, être maudit par Dieu à la place de mes confrères, les Juifs, mon peuple. Et il va plus loin, au cas où on aurait un doute. J'aimerais être anathème et séparé du Christ. Littéralement, loin du Christ. Le mot anathème ici parle probablement de sa séparation avec le Père, qu'il souhaiterait, et séparé du Christ parle de sa séparation avec le Fils. Et lorsqu'on songe que Jésus, que Paul, avait tout abandonné pour suivre Christ, c'était une double perte que d'espérer d'être séparé de Christ pour ses frères, les Israélites. Quelle affirmation! On peut se demander s'il est réellement possible qu'un homme vienne à aimer au point de désirer s'il était possible d'être séparé de Christ. Mais il semble que, selon les Écritures, il semble que c'est possible. On a trois hommes qui l'ont fait, qui ont désiré, c'est-à-dire un qui l'a fait. On a Moïse, on a Paul ici, qui désire. Il a tellement à cœur son peuple qu'il serait prêt, si c'était possible, à être séparé de, de Dieu. Et il y a le Seigneur Jésus qui a exactement fait cela, qui a quitté son ciel, qui est devenu anathème pour toi et moi. Il l'a accompli, lui. Il avait le même désir que Paul dans le ciel. Et il est venu. Et il est devenu anathème pour toi, pour moi. Il a été maudit par son Père. Maudit est quiconque est pendu au bois. Colère de Dieu accumulée depuis des siècles contre chacun de nos péchés est tombée sur son Fils. Personnellement, je dois réellement admettre que je ne suis pas rendu à une telle prière encore. Mais je désire m'y rapprocher. Dernièrement, c'est intéressant, pendant que j'étudiais ce passage-là, il y a un frère que je connais très bien qui me disait qu'un après-midi, il était dans son auto, il y avait ses deux fils qui sont loin du Seigneur. Sa fille est mariée à un pasteur. Mais ses deux fils sont loin du Seigneur. Et il dit, j'étais dans l'auto. Puis il dit, le cri qui est sorti de mon cœur, c'est le même sentiment que l'apôtre Paul. Seigneur, si c'était possible, enlève mon nom du livre de vie pour que mes deux fils vivent. Ça m'a touché. Il semble que c'est possible d'expérimenter un tel fardeau. Mais Paul sait très bien que cette réalité du fardeau qu'il vient de nous présenter va provoquer des remous. Les malveillants pourraient dire tu mens. Les sceptiques pourraient dire t'exagères. Les incertains pourraient se lui demander ne te trompes-tu pas toi-même? Face à une telle affirmation que tu serais désiré être anathème. Et là, non simplement Paul nous présente la réalité de ce fardeau, mais la sincérité du fardeau. Regardez les affirmations répétées pour nous dire « C'est réel ce que je vous dis. J'exagère pas du tout. » Il dit, regardez au verset 1, « Je dis la vérité. » Il n'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il rajoute? Regardez dans le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? « Je ne mens pas. » Lorsqu'on a un homme intègre qui nous dit « Je dis la vérité, je ne mens pas », c'est qu'il sait que ce qu'il va dire a un impact tel qu'il a besoin de clarifier qu'il dit réellement la vérité. Et on a un homme intègre ici qui ne ment pas. Paul, il dit « Je dis la vérité, je me demande. » Ce que j'affirme là, par cette double affirmation, c'est que c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Puis il continue puis il dit « Je vais amener des témoins à la barre que ce que je dis est vrai. » Premier témoin, Christ lui-même. Il dit « Je dis la vérité en Christ. » Je prends Jésus-Christ comme témoin. Je dis la vérité devant lui. En Christ, je vous affirme la chose suivante. Même, il va plus loin. Il dit, ma conscience m'en rend témoignage. Deuxième témoin, ma conscience. Lorsque je regarde ce que j'affirme, il n'y a aucun pli de remords sur ma conscience. Ma conscience est nette. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Et il continue, on pourrait dire, arrête Paul, je te crois là. Hein? Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas, je dis la vérité en Christ, ma conscience m'a rendu témoignage. OK, ça va Paul, arrête. Hein, il continue. M'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, au cas où vous penseriez que ma conscience divague, il dit, je vous déclare que ma conscience est éclairée par le Saint-Esprit. Ce que je vous affirme là, il n'y a aucun doute, c'est réel. Je désirerais être moi-même anathème pour ceux de mon peuple. Wow! C'est réel, c'est sincère, c'est vrai. Et regardons maintenant, non simplement la réalité, l'intensité, c'est-à-dire l'intensité, excusez-moi, maintenant, du fardeau de Paul. Et là, c'est très touchant, verset 2. J'ai une grande tristesse. Lorsque Paul songe à la situation éternelle du peuple juif, il dit, j'ai une grande tristesse dans le cœur. Il dit, non simplement une tristesse, mais une grande tristesse. C'est une réaction douloureuse en présence d'un mal que l'on ne peut fuir. C'est ça la définition d'une tristesse. Il pense à la perdition de son peuple. Puis il dit, mon cœur est constamment triste. Pas constamment, il est intensément triste, excusez. J'ai une grande tristesse. J'ai une réaction douloureuse en présence d'un mal que je ne peux pas fuir, la perdition de mon peuple. Paul avait cette tristesse-là en lui, profonde, intense. Mais il n'y avait pas juste la tristesse. Il y avait aussi une tristesse, une douleur intense. Hein, il dit, j'ai dans le cœur une douleur, continuelle. Une tristesse profonde, une douleur continuelle. Il avait mal constamment à l'intérieur. Ça lui faisait mal. C'était profond. Au point que cette douleur, cette tristesse l'a amené à faire cette prière. Seigneur, que je sois anathème plutôt que mon peuple juif. Cette tristesse-là est pour sa famille, sa grande famille juive. Hein? Pour son peuple, mes parents sont dans la chair qui sont les Israélites. Saviez-vous que les liens de sang sont souvent présentés dans l'Écriture comme ce qui pousse à l'intercession? Mon peuple, dit Paul, ce lien de sang, les nôtres, c'est souvent ce qui pousse à l'intercession. Regardez le Nouveau Testament. Une mère pour son fils malade dans Deux Rois, dans l'Ancien, dans le Nouveau. Une mère cananéenne pour sa fille démonisée. Un père pour son fils démoniaque. Un père chef de synagogue pour sa fille mourante. Dieu utilise les liens familiaux, les liens de proximité, pour intensifier notre désir. Et je suis en train de le vivre actuellement. Ma mère est à l'hôpital, 82 ans, encore incroyante. Elle a perdu un œil, elle est en train de perdre le deuxième. Et on intercède pour elle. C'est comme une manifestation de ce qui se passe spirituellement, sa maladie. Ça fait 50 ans et plus qu'elle résiste à l'Évangile. Oh, que Dieu vienne la visiter, c'est encore ma prière. J'intercède pour elle. Quelqu'un a dit, dans Pulpit Commentary, « Si notre christianisme est authentique, il ne détruira pas notre affection naturelle, mais va la purifier et l'ennoblir. L'affection familiale est d'autant plus forte sous l'influence de l'Évangile. » Et quand Paul pense aux zèles religieux du peuple juif, il dit, « Ils sont sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. » Aux Juifs, quand il pense aux Juifs qui le pourchassaient dans les villes où il évangélisait, dans Thessaloniciens, il mentionne là son fardeau. Ils sont toujours après lui, constamment après lui. Mais Paul se rappelait. Au lieu de l'amertume, Paul se rappelait que lui-même avait persécuté comme ceux qui le persécutaient. Au lieu de l'amertume, c'était une intercession intense qui l'animait. Voyez-vous, il y avait quelques dizaines de milliers, d'après le Nouveau Testament, de Juifs qui avaient cru. La population était à peu près 4,5 millions de Juifs à travers l'Empire romain. Quelques dizaines de milliers sur une population de 4,5 millions. Un reste. Un reste. Ça ressemble beaucoup à ce qui arrive au Québec, vous ne pensez pas? Notre peuple québécois, 7 millions, peut-être 50 000 évangéliques, quelques milliers, exactement, comme le peuple juif. Depuis maintenant 20 ans, on entend toujours ce chiffre, 0,5%. Je vous le répète. Un reste. Paul dit, j'ai une tristesse, j'ai une douleur, une tristesse profonde, une douleur continuelle pour mon peuple. Ces liens de sang, où nous voyons les nôtres aller à la perdition, nous attristent. Notre père, notre mère, peut-être. Nos frères, tes sœurs, mes sœurs, tes oncles, tes tantes, ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail, tes concitoyens. J'ai deux voisins. Je les évangélise régulièrement, je les aime. Une très belle relation. Et à chaque fois que je l'évangélise, il aime ça, débat. C'est un syndicaliste. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté, mais en tout cas, il était syndicaliste dans le temps, il était à la retraite, il a 78 ans. Là. Il me dit, moi, il dit, ben, je lui parle de l'enfer, que pour lui, les injustices qui se sont commises, c'est inacceptable. Puis il dit, sais-tu qu'est-ce que je vais être? Je vais être celui qui va mettre le charbon dans le brûler en enfer. Il m'a répété ça à peu près 10 fois. Justice va être faite. Il est amer. Il pense que c'est lui qui va mettre. Je lui ai dit que ça ne sera pas le cas. char de la discussion avec lui, puis je suis triste. J'intercède pour lui. Ça m'attriste. Cet aveuglement. Il est devant l'éternité. Et je l'ai à cœur. Paul dit, c'est cette douleur-là. Le mot douleur est fort. C'est le même mot utilisé par Marie, qui avait perdu Jésus. Elle dit, voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine, en grande douleur. On s'inquiétait de toi, Jésus. C'est l'homme riche, lorsqu'il était tourmenté par les flammes. Le mot tourmenté, c'est le même mot. C'est le même mot pour les chrétiens lorsque Paul leur dit qu'il ne les reverrait plus. Douleur. Un mot intense. Voyez-vous? La tristesse alourdissait le cœur de Paul. Et la douleur était là, constante. Et ça, cette tristesse et cette douleur-là, là, quand Dieu vous la donne, ben c'est le Saint-Esprit qui la donne. Quand Dieu la donne, porte ça. C'est merveilleux. Quand on a la tristesse et la douleur, très souvent, on va essayer d'oublier ça. Ça fait trop mal. On n'aime pas ça être triste. Mais ici, ça produit une intercession, mes frères et sœurs, qui va porter du fruit. Mets pas ça de côté. Quand tu es triste pour ta famille, quand tu as de la douleur parce que ta famille est perdue, parce que ton voisin est perdu, parce que tes compagnons de travail sont perdus selon l'Évangile, garde ça précieusement dans ton cœur. Et va devant Dieu avec ta tristesse et ta douleur. Qu'est-ce que la tristesse va produire? Quand on est triste, qu'est-ce qui se produit physiologiquement? On pleure. Qu'est-ce que la douleur produit physiologiquement? Quand tu as mal, c'est quoi qui a le goût de sortir? Un cri. Ceux qui sèment avec larmes. Dieu ne fera-t-il pas sa justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient. La tristesse va t'amener les larmes pour les perdus, comme Jésus qui pleurait sur Jérusalem. Et la douleur va t'amener les cris. Frères et sœurs, ça fonctionne. Au moins 3 reprises, j'ai expérimenté ça. Clairement. Où la douleur était tellement intense, il fallait que je me mette à genoux. Parce que j'avais mal. Et 1 mois plus tard, dans les 2 cas, Dieu a converti les personnes pour lesquels j'avais prié de cette façon-là. De cette grande tristesse, de cette douleur continuelle du cœur, va jaillir les pleurs et les cris. Dans 1 Timothée 2, Dieu déclare qu'il désire qu'on intercède pour tous les hommes. Qu'est-ce que je peux faire devant un tel exemple de prière? Premièrement, accueille cette tristesse et cette douleur que l'Esprit de Dieu veut placer sur ton cœur. Tu ne peux pas la produire. Tu ne peux pas te craquer. Accueille-la lorsqu'elle est là. Lorsque tu vas à une rencontre familiale, puis que là, ça m'est arrivé à tellement de reprises, d'aller à une rencontre familiale, de voir mes neveux et nièces qui s'éloignent de l'Évangile. Et je suis venu dans l'auto avec une tristesse profonde. Accueille-la. Répands-la devant Dieu. Va devant Dieu avec ta tristesse. Au moins 2 reprises, le lendemain matin, Dieu avait un passage pour moi. qui répondait à ma tristesse. Dans ma lecture quotidienne, je ne les cherchais pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait déposé ce fardeau dans mon cœur. Donc, accueille. Cesse de fuir la tristesse et la douleur. Ça va produire un fruit. Un fruit éternel de gloire. Des âmes sauvées. Deuxièmement, tu peux demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, c'est pas là. J'ai pas à cœur. Seigneur, je suis honnête avec toi, là. C'est pas là. Je vois mes amis, je vois mes compagnons de travail, je vois mes voisins, je vois ma famille, puis j'ai pas de fardeau. Peut-être que tu es découragé ce matin. Tu dis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Je suis certain que quelqu'un a déjà dit ça de toi. On l'a dit de moi. Il n'y a rien à faire avec lui. On a affaire avec Dieu. On a affaire avec Dieu. Demande à Dieu ce fardeau-là. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le suscite. C'est des prières que le Saint-Esprit vient déposer dans nos cœurs, des fardeaux que l'Esprit de Dieu vient déposer dans le cœur. Et tu ne peux pas faire autrement que t'agenouiller et prier. Demande-le. Demande-le. Dans les années 70, 60, nos frères anglophones, parce que les ouvriers étaient persécutés, intercédaient pour le Québec. Les frères anglophones, je retournais au congrès annuel de notre association, et un après l'autre me disait, je prie chaque jour pour toi, je prie chaque jour pour toi, je prie chaque jour pour le Québec. Il y avait une armée que Dieu avait suscitée d'intercession pour le Québec. Vous pensez que c'est juste un mouvement social, la Révolution tranquille? Vous expliquez ça seulement par quelque chose d'horizontal? Non, non, non. Il y avait des prières qui montaient vers Dieu et qui préparaient le peuple québécois à recevoir l'Évangile. Et on a eu 40 000 conversions en l'espace de 10-15 ans. La grâce de Dieu, réponse aux prières. Ah, tu dis, le peuple québécois, il a changé, là. C'est vrai qu'il a changé, pas mal. Mais Dieu est encore vivant, vous savez. Il n'a pas dit son dernier mot. Crois-tu cela? Que Dieu est capable de toucher le cœur des Québécois? Je sais pas si tu as déjà vu le film Glory, où le général Shaw, il dirige le 54e régiment. Il y a 12 régiments en arrière qui s'en viennent, mais c'est un régiment de Noirs, puis ils vont libérer le Fort Wagner, ils veulent libérer les Noirs, la guerre de sécession. Puis on voit ce général-là à l'assaut pour aller libérer. Et il meurt en train de libérer. Et les sudistes l'ont pris puis l'ont enterré avec les Noirs pour l'insulter. Ils ont fait de lui un héros. Ils ont fait de lui un héros. Il est dit, je cherche parmi eux un homme. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche un homme afin qu'il ne soit pas détruit. Je vous dirai pas la conclusion de Dieu. Prions au Seigneur. Seigneur, je te demande à nouveau cette tristesse, cette douleur pour ces gens qui s'en vont en enfer. Mon peuple québécois, notre peuple québécois. Pour ma main, Seigneur. qui est aveugle, qui résiste. Seigneur, j'invoque le sang de l'agneau sur elle. Aie pitié d'elle, Seigneur. Augmente ce fardeau dans mon cœur. Augmente ce fardeau dans nos cœurs. Amène-nous à crier, Seigneur, à toi. Au précieux nom de Jésus. Amen.